Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif, c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, à mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel que parce que genre, t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans Ni Bu Ni Connu sur Divergence FM. Cette semaine, on prend la route des Cévennes, un territoire qui nous fait vibrer par ses paysages, ses reliefs, sa beauté sauvage, mais aussi par son esprit de liberté, de légèreté et de résistance. Résistance huguenote, résistance pendant la guerre, et aujourd'hui encore, résistance vigneronne. Direction Saint-Ambroix, à la frontière de l'Ardèche, au domaine de Bergerolles, avec Mathieu Manifassier. Ensemble, on va parler de vin nature, de cépages interdits, de cépages hybrides, de paysages cévenols, et de cette manière si singulière de faire du vin autrement. Et comme toujours, rappel important, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bonne écoute.
T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin?
J'aime beaucoup ça.
Bon, salut à tous, on est aujourd'hui au domaine de Bergerolles, au pied des Cévennes, à Saint-Ambroix, donc à la frontière entre le Gard et l'Ardèche. On est au domaine de Bergerolles, donc on est en plein dans les vignes, avec évidemment les oiseaux, de temps en temps les tracteurs qui passent, et évidemment les employés viticoles. Donc on est avec Mathieu qui a une spécialité et une spécificité, c'est de faire du vin naturel au pied des Cévennes et de cultiver aussi des cépages hybrides qu'il vinifie en mode nature. Donc on va évidemment avec lui voir la vigne, le paysage, son travail et surtout les cépages hybrides parce que c'est en Occitanie. Alors Mathieu, comment ça va?
Bien, et toi?
Bah, écoute, ça va. Ça y est, le printemps est bien lancé cette fois-ci.
Ah voilà, ça y est, là, on a vraiment la première journée de chaleur. C'est super, là. Voilà, un grand ciel bleu. Ça fait du bien.
Donc là, on est fin mai, évidemment, pour vous situer le contexte. Donc Mathieu, avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter toi en tant qu'individu et ensuite ton domaine?
Alors du coup, moi c'est Mathieu Manifassier, Cévenole, né dans les Cévennes, et voilà, grandi dans les vignes, justement là, du domaine de Bergerolles, domaine familial, et voilà.
Fais-nous une carte d'identité du domaine alors, Bergerolles c'est quoi aujourd'hui en 2026?
Aujourd'hui, Bergerolles c'est une trentaine d'hectares en culture bio, avec un tiers du vignoble planté en cépage résistant hybride. Résistant aux maladies cryptogamiques de la vigne, voilà.
Et parle-nous un peu de l'histoire du domaine, alors ici, c'était quoi avant? Tu l'as hérité de qui?
Alors le domaine, c'est mon grand-père qui l'a racheté, ça il y a bientôt 60 ans, ce domaine était en faillite, il y avait des vignes déjà avant, mais voilà, il a tout reconstitué le vignoble, et petit à petit, moi je suis troisième génération, quand on entretient les vignes ici, il y a une multitude de cépages, comme c'est, il y a des cépages traditionnels, mais il y a des cépages hybrides, et aujourd'hui on vinifie tous les raisins en méthode nature, voilà, au plus près de la nature, de l'environnement.
Bon, on y reviendra après au vin, promis. Mais déjà, est-ce que tu peux nous situer ton domaine et Saint-Ambroix? On est où en fait en Occitanie? Alors, on est où en France même d'ailleurs?
Alors, du coup, Saint-Ambroix, petit village, petite ville, on va dire un peu petit, du nord du Gard, limitrophe de l'Ardèche. Du coup, on est vraiment à la frontière de l'Occitanie, au nord de l'Occitanie. Après, il y a la Lozère pas loin aussi, mais on est vraiment à la frontière de l'Ardèche. On est sur les bordures du parc national des Cévennes. On est à l'intérieur, mais on est vraiment à la frontière, la limite nord-est du parc national des Cévennes, dans cette zone naturelle. Et voilà, et on est au bord de la Cèze. On est à la sortie de la vallée de la Cèze, et on est juste avant les gorges de la Cèze. Voilà, on est entre deux. Au pied des Cévennes.
Donc ici, on peut dire qu'il y a un terroir cévenol, et comment il s'exprime, par exemple, dans tes vignes?
Alors,
les sols, peut-être.
Le terroir des Cévennes, déjà, c'est des sols. C'est des sols qui arrivent du Mont Lozère, là, des Cévennes, avec ces sols acides, pas de calcaire, beaucoup de fraîcheur, et le climat aussi, avec les épisodes cévenols, ces gros orages, toutes ces pluies qu'on a, et un peu plus de pluviométrie, justement, sur ce piémont cévenol, qui nous amène de la fraîcheur dans les vins aussi. Ouais.
Là, on est à combien de, pour bien situer, on est à combien de kilomètres, par exemple, de la mer et du Mont Lozère?
Alors du coup, le sommet du Mont Lozère est à 20 km à vol d'oiseau. Donc
ah oui,
on est
à
20 km, on est à 1700 mètres d'altitude. Là, nous, on est à 200-250 de moyenne autour. Et la mer, elle doit être à 60 km.
D'accord, ok.
À vol d'oiseau.
Ouais, c'est du coup 1h30-2h.
Ouais, 1h30 de voiture.
Ok. Voilà. Et donc là, on est à la frontière géologique entre finalement ce que tu disais, le Piémont Cévenol, et ce qu'on appelle le calcaire garrigue.
Voilà, ça, on est vraiment sur ça s'appelle la faille des Cévennes, justement. C'est cette ligne du Piémont des Cévennes où d'un côté vous avez les schistes et les sols acides, et de l'autre côté le début de la garrigue de la Provence.
Voilà. Ok. Bon, vous entendez, chères auditrices et chers auditeurs, plein de bruit, c'est normal, je le répète, on est dans un domaine où aujourd'hui ça bosse beaucoup avant le week-end, travaux dans les vignes, bourgeonnage, lavage du matériel, donc c'est normal, ce petit bruit un peu gênant, c'est comme ça. Donc Mathieu, toi tu as repris du coup le domaine en quelle année et quelle est ta vision de... qu'est-ce que tu as voulu amener au domaine?
Alors moi je suis arrivé en 2006 sur le domaine. Qu'est-ce que j'ai ramené? J'ai ramené une vision amateur de vin, en fait. J'ai fait mes deux dernières années d'études à Montpellier, dans une classe où il y avait beaucoup d'amateurs de vin. On était, les vignerons étaient minoritaires. Et du coup, j'ai vu cette vision d'amour du vin. Et du coup, j'avais envie de produire les vins que j'aime boire. Et voilà, donc j'ai fait évoluer beaucoup, pas faire du vin business, mais faire du vin sentimental et d'amour, voilà.
Et donc c'est quoi ce vin sentimental?
C'est ce qui me fait vibrer. Ouais. J'essaie de trouver, de faire des vins vivants qui me vont en fait et que je me dis voilà, ça c'est quelque chose que je boirai. Et ça part de là, voilà. Après, bon, beaucoup de créativité. J'aime bien tester, la curiosité, et du coup, voilà, beaucoup de création. Et en ce moment, il y a 18 cuvées différentes au domaine.
En Alsace,
voilà.
Quoi. C'est...
Ouais, c'est voilà.
Bon bah et du coup ta spécificité c'est des vins voilà des vins d'auteur, des vins comme tu dis sur l'aspect sentimental. Bah ça s'exprime par la vinif nature pour toi, c'est ça?
Ah ben là ça je suis pas venu de suite parce qu'il faut quand même le maîtriser. La vinif nature c'est quand même, je trouve que c'est vraiment c'est le challenge le plus haut pour le vinificateur, d'arriver à faire des beaux vins et signatures et tout ça et droit, mais tout en restant nature sans aucun intrant. Sans enlevant l'aide de l'onologie, voilà, des produits onologiques. Et voilà, donc là maintenant, tout est comme ça au domaine, et comme ça on a beaucoup plus de, voilà, de vivants.
Et pour nos auditeurs et auditrices, c'est quoi pour toi la définition d'un vin nature justement? Parce que c'est assez galvaudé, tu vas en grande surface, il y a marqué nature machin, sans sulfite ajouté. Toi c'est quoi ta définition et dans les faits?
Ouais, bon, du coup, ben, ça justement, quand vous voyez écrit sans sulfite ajouté, ben, là on est sur un bien business, on va dire, en général. Dans la grande majorité des cas, moi je dis le vin nature proprement dit, c'est un vin qui a été fait sans intrants, donc avec les levures naturelles qui se trouvent sur la pellicule des raisins, pas de levure ajoutée, pas de filtration, pas d'addition de. Parce qu'on peut ajouter des protéines végétales, même d'œufs ou des protéines animales de poisson pour stabiliser les vins, les clarifier, tout ça. Aucun additif dans les vins nature et les sulfites quasiment à zéro. Alors, sans sulfite, ça veut dire zéro, mais aussi on peut en ajouter un tout petit peu à dose homéopathique, mais voilà.
D'accord, ok. Et donc, qu'est-ce que tu dis aux gens qui te disent le vin nature, moi j'en bois pas trop, parce que ça sent mauvais, ou ce genre de choses? Parce que moi j'ai goûté déjà tes vins, on n'est pas du tout sur des vins déviants, du coup.
Alors ouais, il y a eu de tout, de fait. Je pense, à un moment donné, il y a une dizaine d'années, 10-15 ans, il y a eu vraiment une grosse mode, plein de sommeliers, ou... Je ne vais pas décrire les sommeliers, c'est grâce à eux que merci aux sommeliers de vendre nos vins tous les jours sur les plus belles tables de France et dans tous les restaurants. Mais il y en a qui se sont sentis pousser des ailes et se mettre à faire du vin, sommelier ou autre métier. Et ils sont mis à faire du vin nature comme ça, sans expérience, et il y a eu beaucoup de tout en fait. Il y a eu de tout qui a été fait, du bon comme du moins bon. Et les moins bons ont été souvent très diffusés. C'est souvent les minorités qu'on parle le plus. C'est naturel, ça, c'est quelque chose qui se passe dans notre société. C'est ceux qui font le plus de bruit. Mais bon, au final, ben, ça a donné une mauvaise image au vin nature. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même une remise en question énorme. Il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question. Et il y a une génération aussi, comme moi, qui arrive avec des bases, qui ont déjà vinifié beaucoup de vins. J'ai vinifié du vin avec l'aide de l'onologie avant, et maintenant je fais du vin nature.
Ouais, t'as vu avant et tu vois après,
et d'avoir vraiment un recul, et je sais ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, et d'où le gros challenge de faire du vin sans intrant. C'était vraiment une grosse remise en question. Voilà.
Bon, toi, ça fait maintenant quelques années que tu commences à être assez connu dans le monde du vin nature, un peu dans les grandes villes et même dans les territoires. Et quel a été le déclic pour toi de faire du coup du vin naturel?
Le déclic, c'était le jour où je n'ai plus aimé mon vin, justement. Je veux aimer mon vin. Et en fait, un jour, ma grande cuvée ne me faisait plus vibrer, mon grand rouge. Je me retrouvais à une table où des vignerons, des journalistes et des sommeliers vibraient sur mon vin, mais moi, je ne vibrais plus. Donc du coup, je me suis dit, ben là, il y a un problème. C'était trop cadré, en fait, peut-être, ou trop aseptisé par l'onologie, je pense, mais aujourd'hui, avec le recul. Et du coup, là, vraiment, je me suis dit, bon, allez, il faut passer à autre chose, parce que je commençais à m'ennuyer, en fait. C'était trop facile de faire du bon vin avec l'onologie, donc ça m'a remis un coup de boost, remettre en question, voilà, justement, à chaque fois, je reviens là-dessus, mais... et de revoir les choses pour tout faire bon et sans intrant.
Ok. Mais comment, du coup, bien maîtriser, entre guillemets, ces levures indigènes lorsque tu fais du vin nature, et pour pas que ça parte en cacahuète comme les nombreux vins que tu as cités avant? Parce que tu maîtrisais tout avec l'œnologie, comment en fait remaîtriser tout, mais avec les levures indigènes?
L'œnologie, on va dire, c'était le gilet de sauvetage ou le parachute qui nous permet de, voilà, de maîtriser la chute. Ou de ne pas se noyer. Et là, je trouve que c'est... Ben en fait, il faut avoir des beaux raisins. Et donc voilà, ben là, je travaille. C'est le printemps. Et c'est au printemps, en fait, qu'on fait le vin. C'est dans les vignes. Et il faut avoir des belles vignes. Il faut leur donner de l'amour. Il faut les entretenir. Il faut que le sol vive. Il faut qu'elle soit vivante. Il faut qu'il y ait de la vie. Et après, beaucoup de rigueur dans la cave. Voilà, beaucoup d'hygiène, beaucoup de rigueur. Ça, c'est le seul truc. Mais après, il y a plein de secrets. Mais voilà.
Bon, on n'est pas là pour évidemment donner tes recettes, mais tu dis donner de l'amour à ces vignes, bien entretenir ces sols, les rendre vivants. Comment tu fais en quelques secondes?
En quelques secondes
Quels sont les... Tu m'as dit que tu semais des engrais verts,
voilà,
par exemple.
Ouais, on sème les engrais verts, ça nous permet, selon les variétés sélectionnées qu'on sème, ça nous permet d'amener de l'azote ou amener de la matière organique ou de drainer les sols, enfin, on a plusieurs choses, ou de protéger les sols du soleil sur certains endroits, ou de freiner un peu la vigne dans les endroits que c'est trop riche. Et voilà, en fait, on calcule les semences qu'on va mettre, les couverts végétaux qui vont pousser par rapport au sol. Alors ça, il faut de l'expérience, on ne peut pas le trouver d'un coup, et petit à petit, voilà, on s'est calé, et on essaye de laisser couvert les sols au maximum dans toute l'année, justement, pour garder tout le vivant, de ne pas les détruire avec le travail du sol, les bactéries, les insectes et tout, qui ait une vie en fait, dans les sols. Et après, ben, du coup, les vignes, elles nous disent merci, elles nous donnent des beaux raisins.
Donc, tu disais tout à l'heure que tu avais une trentaine de pourcents de cépages qui sont des hybrides. Voilà, pour le commun des mortels, on est un peu perdu. C'est quoi hybride? Ça veut dire qu'il y a des pas hybrides? C'est quoi la différence?
Ouais, alors, du coup, hybride, on va dire... un hybride, c'est un croisement inter-espèce. Donc, du coup, il y a le jar vitis. Vinifera est l'espèce de toutes les variétés, après la variété en dessous l'espèce. Les variétés Cabernet, Syrah, Sauvignon, Viognier, tout ça. Et il y a d'autres espèces. Il y a le Vitis lambrusca, Vitis riparia, qui nous servent de porte-greffe pour les vignes qui nous ont sauvé du phylloxéra, le vignoble européen. Il y a Vitis amoris qui vient d'Asie, il y a Muscadina rotundifolia. Tout ça, ce sont des Vitis. Et ces vitis, elles n'ont pas eu la main de l'homme pour être transformées au fil des siècles et faire des raisins bons pour la vinification. Mais par contre, elles ont des gènes de résistance aux maladies que vitis vinifera n'a pas. Donc on les croise. Alors, le croisement est naturel, c'est du pollen sur les grains. Il faut faire germer les pépins après.
C'est pas un OGM, quoi.
C'est pas un OGM. En labo, ils peuvent un peu accélérer les choses avec sous serre et tout, faire plus de cycles végétatifs dans l'année pour aller un peu plus vite, parce que sinon, il faut faire germer un pépin. Mais ça prend,
c'est un an.
C'est un an, un an à chaque fois, à chaque essai. Chaque essai n'est pas concluant, donc c'est très long. Mais voilà, c'est quand même le mélange de deux espèces. Et donc après, quand on arrive à trouver le bon pépin qui fait la bonne plante, qui prend les gènes de résistance de la maman et les gènes qualitatifs des bons raisins du papa, on le garde et on le peut pousser et on fait du vin avec.
Voilà. Donc tu as quoi comme cépage résistant ici?
Alors, ici, j'ai le Sauvignon Gris, qui est le plus planté en France aujourd'hui. Qui
environ 400 hectares, je crois.
Ouais, même ça a dépassé les 500 maintenant. Okay. C'est le plus planté en France. Il a été créé en Allemagne, lui, dans les années 80. Après, j'ai Floréal, Artaban et Vidocq, qui sont les trois créations de l'Indra française des dernières années. J'ai du Muscaris, qui est en plantier, voilà. Et j'ai des cépages Bouquet, Alain Bouquet, qui était un agronome languedocien, qui a créé des cépages lui résistants pour le Languedoc. Alors ça, ils sont encore en expérimentation, mais il y a un descendant de parents italiens et un descendant de parents Grenache et Marcelin, moi, que j'ai ici en expérimental.
Et c'est quoi les avantages du coup de... On s'excuse pour le bruit, c'est les tracteurs qui repartent.
Le tracteur,
c'est,
il part.
Ouais. C'est quoi les avantages des cépages résistants par rapport aux cépages non résistants? Est-ce qu'on dit résistant à quoi en fait?
Oui, en fait, ils résistent principalement au mildiou et à l'oïdium, les deux principales maladies cryptogamiques. En fait, même qu'on soit en bio, on est obligé de traiter avec la bouillie bordelaise et du soufre. Et là, ça nous permet de traiter... Alors zéro, c'est pas conseillé parce qu'il faudrait pas que la maladie mute et contourne le gène de résistance.
Certains disent cépage résistant, mais tolérant.
Tolérant, voilà. Le mot juste, ça serait tolérant en fait, c'est qu'ils attrapent la maladie, mais après ils arrivent à s'auto-immuniser. Donc on voit les taches, mais les taches après sèchent sur les feuilles, les taches de maladie. Mais voilà, donc on fait un ou deux traitements selon la pression, selon les pluies de la saison, et voilà. Au lieu de faire 8 à 15 traitements sur les vinifères. Voilà.
D'accord, ok. Ouais. Et quels autres avantages, hormis le côté résistance aux maladies? Enfin, j'imagine que c'est quand même bon. Comment tu vois les choses?
Souvent, on dit que ce n'est pas très bon et tout. Moi, je pense je suis un peu dans les pionniers en France qui en a planté. Dans l'autorisation, il y a en 2019. En 2018, je commençais à en planter. Il y en avait qui ont planté avant moi. Je ne dis pas que je suis le premier. Mais après, en 2020-2021, quand j'ai les premiers jus qui arrivent dans la cave, là en fait on se rend compte que les jus sont super pour faire du vin nature. C'est au même moment où 2020 où je commence à faire des vins nature et on se dit non mais là les équilibres sont différents des vinifères, ça c'est des bombes à fermentation, ça va faire des vins super stables sans intrants. Et du coup voilà, on a trouvé ce truc. Et après je l'ai pareil pour la base, il faut bien traiter les vignes aussi, il faut bien les bichonner pour qu'elles nous donnent des jolis raisins et faire du bon vin. Ça reste toujours la base. Le problème, c'est que c'est souvent c'est des modèles plutôt industriels qui plantent des cépages résistants pour justement optimiser les coûts. Et là, la qualité est moins bonne aussi. Voilà.
Mais du coup, ça veut dire qu'ils ont quelque chose, je sais pas, de l'acidité en plus
des... du coup, la stabilité vient de l'acidité, de l'équilibre. Okay. Donc le jus, les jus de raisin, il y a de l'acidité, du sucre et des polyphénols. Ils ont plus ou moins de polyphénols, mais surtout ils ont des acidités plus hautes que les vinifera, ce qui amène une stabilité antibactérienne parce que ça
peut... Les bactéries n'aiment pas
n'aiment pas l'acidité. Ils arrivent mieux à assimiler l'azote des sols dans les jus, et la levure se nourrit d'azote pour fermenter.
D'accord.
Et du coup, quand la levure fermente bien, le vin est plus stable derrière. Voilà.
Donc finalement, moins d'intrants dans les vignes, mais moins d'intrants grâce à ça aussi.
Moins d'intrants dans la cave aussi grâce à ça, ouais.
D'accord.
Mais ça, ouais, voilà, je pense que là, aujourd'hui, avec les croisements des personnes qu'on fait et tout, qu'on en parle avec Jean-Benoît Goulabert, c'est un vigneron de Lozère, justement, qu'on a un peu vu ça et on a un peu diffusé ce truc c'est super pour les vins nature, et voilà. Et bon, maintenant, on croise d'autres vignerons dans d'autres régions, mais voilà, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup en France à avoir pris ce pas de suite d'aller vers le nature avec les résistants.
Et tu fais un pet nat avec le bouquet. C'est quoi la particularité du bouquet? Parce qu'on est dans le Languedoc, donc il faut qu'on mette en avant le résistant du Languedoc. Alors, parle-nous du bouquet.
Du coup, Alain Bouquet avait donc aujourd'hui le cépage à Paris Vendôme. Moi, je l'ai appelé Italia Bouquet, mais ça, c'est un nom de code, c'est des chiffres d'expérimentation. Et en fait, ce qu'il a en plus, c'est qu'il résiste à la sécheresse aussi.
Ah d'accord.
Okay. Il est très tolérant, on va dire tolérant à la sécheresse.
C'est un blanc, c'est un cépage blanc.
C'est un blanc, c'est un cépage blanc, c'est un raisin de table italien en fait, le même qu'on peut trouver chez le maraîcher,
Biocop,
Biocop. Et en fait, ça fait des très beaux jus blancs, très aromatiques. Mais surtout, ils résistent à la chaleur, ils poussent assez droit, ils ont une belle vigueur. Voilà, plein de trucs qui vont bien pour le sud de la France. Voilà,
mais pourquoi, avec autant d'avantages, tu t'arraches pas des vignes et tu mets que du bouquet, du coup?
Parce que mes vignes, je les aime bien. Non, mais petit à petit, on le plante, mais voilà, il faut garder notre historique aussi. On va pas tout détruire, toute l'histoire de ce qu'on a fait avant. Et on assemble ou on fait du pur, voilà, ça amène de la diversité. Faut rester divers. Ouais.
Bon, si tu devais prendre une seule de tes bouteilles sur une île déserte jusqu'à la fin du monde et jusqu'à la nuit des temps, ce serait quoi alors? C'est pas une question piège.
Ouais. Ouais, je prendrais le Clos Blanc. Ouais, Mont Blanc.
Raconte-nous,
plutôt blanc.
C'est
le Clos Blanc. Le Clos Blanc aujourd'hui, c'est une des premières, ma première signature au domaine, vraiment en vin un peu travaillé, on va dire un peu plus complexe. Et c'était une base de Sauvignon Blanc au début, avec une vinif en barrique, barrique d'acacia majoritairement, qui garde la fraîcheur, qui garde le côté délicat du Sauvignon Blanc. Petit à petit, après le petit Mansin s'est introduit dans le vignoble et s'est introduit dans l'assemblage. Et aujourd'hui, on a même le Floréal qui commence à s'introduire dans l'assemblage, le résistant. Et voilà, c'est aromatique, mais c'est frais, c'est long en bouche, c'est classieux, voilà. Et voilà, je suis plutôt blanc, et voilà, je prendrais celui-là.
Ok. On est en Occitanie, ici. On est à 1h30, 2h de Montpellier, donc c'est la même région. Mais ici, l'appellation que tu revendiques sur la plupart de tes vins, c'est IGP Cévennes. Et c'est quoi les avantages de cette appellation?
L'avantage, c'est la liberté.
Ouais.
On est vigneron libre. Vigneron de résistance, terroir de résistance, terroir de contraste, les Cévennes.
C'est vraiment l'identité cévenole. Ouais.
Voilà, l'identité cévenole, c'est vraiment ça, toujours dans toute l'histoire des Cévennes, entre l'industrie ou les religions ou les guerres, ça fait la résistance et tout ça. Il y a toujours eu beaucoup de contraste entre les gens, même les gens qui venaient se réfugier, se cacher ici. Les Huguenots, voilà, il y a eu ça aussi. Et toujours il y a eu ces contrastes, et c'est vraiment une terre de contraste entre les orages très violents, les grandes chaleurs, les grands froids. Et je trouve que c'est cool que dans le vin aussi ça se retrouve. Donc beaucoup de liberté, beaucoup de cépages. Les vignerons ne sont pas obligés de se bloquer sur des règles, on laisse faire. Bon, il faut qu'il y ait quand même, il y a juste un contrôle qualitatif pour pas que le vin soit marchand. Il faut que le vin soit marchand, et voilà.
Alors, tu parles de liberté. Il y avait au début du XXe siècle les fameux cépages qui étaient autorisés avant, les cépages interdits, qui sont eux pour le coup des vrais hybrides 50-50. Enfin, tu me dis si je me trompe, entre les vignes américaines et les vignes européennes. Pourquoi ils ont été interdits?
Après, les interdits, c'est des 100% américains.
Ah, c'est 100%. Bon,
il y en a des hybrides. C'est des hybrides. Mais donc de différentes de deux espèces américaines. Parce qu'en Amérique, il y a plusieurs espèces, mais du coup, voilà, c'est des croisements entre espèces. Il y en a un ou deux qui ont quelques gènes de vinifera dans les croisements, mais voilà. À la base, c'est quand même quasiment que de l'américain. Ben, c'était la crise viticole. Il y avait, on ne sait pas toutes les raisons pourquoi le décret est tombé, mais c'est surtout surproduction en France. Il fallait enlever du vignoble. On a enlevé le vignoble qui était un peu indépendant, un peu rustique des Cévennes avec ses variétés américaines.
Ces cépages étaient totalement résistants aux maladies.
Ils sont quasiment tous. Ils étaient résistants. Je pense que aujourd'hui, ils ne sont pas tous résistants. On voit qu'il y a la force de ne pas être traité, justement. Le zéro traitement fait que ça perd un peu la résistance. Mais c'est des cépages très rustiques, très, très costauds.
C'est quoi comme variété, raconte-nous?
Alors, le plus connu dans les Cévennes, c'est le Clinton. Mais après, il y a le Jacquet, un peu en Ardèche aussi, dans les Cévennes ardéchoises. On a l'Isabelle, qui est très connue, le Noix, qui est le plus connu en France. Il y en avait partout en France, du Noix. Mais la typicité, c'est le goût foxé. Le goût foxé, c'est pas un goût qui sent mauvais, c'est l'exubérance de fraises, de framboises, voilà, framboises pour l'Isabelle, fraises pour les autres. C'est l'exubérance et ce côté qui est complètement différent. C'est vraiment une espèce, il n'y a pas du tout de vinifera, donc on sort complètement, on est hors du commun.
On n'a pas le droit du coup de l'appeler vin,
c'est interdit de faire du vin avec, sauf sous en famille ou milieu associatif. Mais du coup, nous on en fait un peu dans les Cévennes, et on appelle ça une boisson alcoolisée, du coup.
D'accord, ok, mais donc ça ne s'achète pas sous le manteau, on a le droit d'en acheter sous ce nom de boisson
alcoolisée. C'est encore... les douanes, c'est encore un peu délicat, mais c'est ça. En gros, quand on achète, c'est boisson alcoolisée à base de raisins sauvages, on va dire.
D'accord. Bon, écoutez, chères auditrices et chers auditeurs, vous avez vu ici avec Mathieu, enfin, vous avez entendu, et on espère que ça vous avait salivé, le magnifique paysage du Piémont. On a parlé vin nature, on a parlé cépage hybride, on a parlé cépage interdit. On vous invite à venir au domaine de Bergerolles pour un week-end en vacances. Le lieu est splendide, Mathieu est beau, Mathieu fait du bon vin. Voilà, merci beaucoup en tout cas Mathieu de t'être rendu disponible. Merci à toi.
Ouais, merci à toi Willy.
À bientôt.
Il faut vous enivrer sans trêve. De quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif, c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un taboulet en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel, t'as presque genre... T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.